Chapitre 22 De l'engouement. Des esprits fort délicats sont très susceptibles de curiosité et de prévention. Cela se remarque surtout dans les âmes chez lesquelles s'est éteint le feu sacré, source des passions, et c'est un des symptômes les plus funestes. Il y a aussi de l'engouement chez les écoliers qui entrent dans le monde. Aux deux extrémités de la vie, avec trop ou trop peu de sensibilité, on ne s'expose pas avec simplicité à sentir le juste effet des choses, à éprouver la véritable sensation qu'elles doivent donner. Ces âmes trop ardentes ou ardentes par excès, amoureuses à crédit, si l'on peut ainsi dire, se jettent aux objets au lieu de les attendre. Avant que la sensation, qui est la conséquence de la nature des objets, arrive jusqu'à elles, elles les couvrent de loin et avant de les voir, de ce charme imaginaire dont elles trouvent en elles-mêmes une source inépuisable. Puis, en s'en approchant, elles voient ces choses, non telles qu'elles sont, mais telles qu'elles les ont faites, et jouissant d'elles-mêmes sous l'apparence de tel objet, elles croient jouir de cet objet. Mais un beau jour, on se lasse de faire tous les frais, on découvre que l'objet adoré ne renvoie pas la balle, l'engouement tombe et l'échec qu'éprouve l'amour-propre rend injuste envers l'objet trop apprécié. Chapitre 23 Des coups de foudre. Il faudrait changer ce mot ridicule. Cependant, la chose existe. J'ai vu l'aimable et noble Wilhelmine, le désespoir des beaux de Berlin, mépriser l'amour et se moquer de ses folies. Brillante de jeunesse, d'esprit, de beauté, de bonheur de tous les genres, une fortune sans bornes en lui donnant l'occasion de développer toutes ses qualités, semblait conspirer avec la nature pour présenter au monde l'exemple si rare d'un bonheur parfait accordé à une personne qui en est parfaitement digne. Elle avait 23 ans. Déjà à la cour, depuis longtemps, elle avait éconduit des hommages du plus haut parage. Sa vertu modeste, mais inébranlable, était citée en exemple, et désormais les hommes les plus aimables, désespérant de lui plaire, n'aspiraient qu'à son amitié. Un jour, elle va au bal, chez le prince Ferdinand. Elle danse 10 minutes avec un jeune capitaine. « De ce moment, écrivait-elle par la suite à une amie, il fut le maître de mon cœur et de moi, et cela à un point qui m'eût rempli de terreur si le bonheur de voir Hermann m'eût laissé le temps de songer au reste de l'existence. Ma seule pensée était d'observer s'il m'accordait quelque attention. Aujourd'hui, la seule consolation que je puisse trouver à mes fautes est de me bercer de l'illusion qu'une force supérieure m'a ravi à moi-même et à la raison. Je ne puis par aucune parole peindre d'une manière qui approche de la réalité jusqu'à quel point, seulement à l'apercevoir, allèrent le désordre et le bouleversement de tout mon être. Je rougis de penser avec quelle rapidité et quelle violence j'étais entraîné vers lui. Si sa première parole, quand enfin il me parla, eût été « M'adorez-vous ?», en vérité, je n'aurais pas eu la force de ne pas lui répondre. Oui, j'étais loin de penser que les effets d'un sentiment puissent être à la fois si subis et si peu prévus. Ce fut au point qu'un instant je crus être empoisonné. Malheureusement, vous, le monde, ma chère amie, savez que j'ai bien aimé Hermann. Eh bien, il me fut si cher au bout d'un quart d'heure que depuis il n'a pas pu me le devenir davantage. Je voyais tous ses défauts, je les lui pardonnais tous, pourvu qu'il m'aimât. Peu après que j'eus dansé avec lui, le roi s'en alla. Hermann, qui était du détachement de service, fut obligé de le suivre. Et avec lui, tout disparut pour moi dans la nature. C'est en vain que j'essaierai de vous peindre l'excès de l'ennui dont je me sentis accablé dès que je ne le vis plus. Il n'était égalé que par la vivacité du désir que j'avais de me trouver seul avec moi-même. Je pus partir enfin. À peine fermé à double tour dans mon appartement, je voulus résister à ma passion. Je crus y réussir. Ah, ma chère amie, que je payais cher ce soir-là et les journées suivantes, le plaisir de pouvoir me croire de la vertu. Ce que l'on vient de lire est la narration exacte d'un événement qui fit la nouvelle du jour, car au bout d'un mois ou deux, la pauvre Wilhelmine fut assez malheureuse pour qu'on s'aperçût de son sentiment. Telle fut l'origine de cette longue suite de malheurs qui l'ont fait périr si jeune, et d'une manière si tragique, empoisonnée par elle ou par son amant. Tout ce que nous pûmes savoir dans ce jeune capitaine, c'est qu'il dansait fort bien. Il avait beaucoup de gaieté, encore plus d'assurance, un grand air de bonté, et vivait avec des filles, du reste à peine nobles, fort pauvres, et ne venant pas à la cour. Non seulement il ne faut pas la méfiance, mais il faut la lassitude de la méfiance, et pour ainsi dire l'impatience du courage contre les hasards de la vie. L'âme, à son insu, ennuyée de vivre sans aimer, convaincue malgré elle par l'exemple des autres femmes, ayant surmonté toutes les craintes de la vie, mécontente du triste bonheur de l'orgueil, s'est fait, sans s'en apercevoir, un modèle idéal. Elle rencontre un jour un être qui ressemble à ce modèle. La cristallisation reconnaît son objet au trouble qu'il inspire et consacre pour toujours au maître de son destin ce qu'elle rêvait depuis longtemps. Les femmes sujettes à ce malheur ont trop de hauteur dans l'âme pour s'aimer autrement que par passion. Elles seraient sauvées si elles pouvaient s'abaisser à la galanterie. Et comme le coup de foudre vient d'une secrète lassitude de ce que le catéchisme appelle la vertu et de l'ennui que donne l'uniformité de la perfection, je croirais assez qu'il doit tomber le plus souvent sur ce qu'on appelle dans le monde de mauvais sujets. Je doute fort que l'Hercaton ait jamais occasionné de coup de foudre. Ce qui les rend si rares, c'est que si le cœur qui aime ainsi d'avance le plus petit sentiment de sa situation, il n'y a plus de coup de foudre. Une femme rendue méfiante par les malheurs n'est pas susceptible de cette révolution de l'âme. Rien ne facilite les coups de foudre comme les louanges données d'avance et par des femmes à la personne qui doit en être l'objet. Une des sources les plus comiques des aventures d'amour, ce sont les faux coups de foudre. Une femme ennuyée mais non sensible se croit amoureuse pour la vie pendant toute une soirée. Elle est fière d'avoir enfin trouvé un de ces grands mouvements de l'âme après lesquels courait son imagination. Le lendemain, elle ne sait plus où se cacher et surtout comment éviter le malheureux objet qu'elle adorait la veille. Les gens d'esprit savoir, c'est-à-dire mettre à profit ces coups de foudre-là. L'amour physique a aussi ses coups de foudre. Nous avons vu hier la plus jolie femme et la plus facile de Berlin rougir tout à coup dans sa calèche où nous étions avec elle. Le beau lieutenant Findorf venait de passer. Elle est tombée dans la rêverie profonde, dans l'inquiétude. Le soir, à ce qu'elle m'avoua au spectacle, elle avait des folies, des transports. Elle ne pensait qu'à Findorf, auquel elle n'a jamais parlé. Si elle eût osé, me disait-elle, elle l'eût envoyé chercher. Cette jolie figure présentait tous les signes de la passion la plus violente. Cela durait encore le lendemain. Au bout de 3 jours, Findorf ayant fait le nigaud, elle n'y pensait plus. Un mois après, il lui était odieux. Chapitre 24. Voyage dans un pays inconnu. Je conseille à la plupart des gens nés dans le Nord de passer le présent chapitre. C'est une dissertation obscure sur quelques phénomènes relatifs à l'oranger, arbre qui ne croît ou qui ne parvient à toute sa hauteur qu'en Italie et en Espagne. Pour être intelligible d'ailleurs, j'aurais dû diminuer les faits. C'est à quoi je n'aurais pas manqué si j'avais eu le dessein un seul instant d'écrire un livre généralement agréable. Mais le ciel m'ayant refusé le talent littéraire, j'ai uniquement pensé à décrire avec toute la maussaderie de la science, mais aussi avec toute son exactitude, certains faits dont un séjour prolongé dans la patrie de l'oranger m'a rendu l'involontaire témoin. Frédéric le Grand, ou tel autre homme distingué du Nord, qui n'a jamais eu l'occasion de voir l'oranger en pleine terre, m'aurait sans doute nié les faits suivants et nié de bonne foi. Je respecte infiniment la bonne foi, et je vois son pourquoi. Cette déclaration sincère pouvant paraître de l'orgueil, j'ajoute la réflexion suivante. Nous écrivons au hasard chacun ce qui nous semble vrai, et chacun dément son voisin. Je vois dans nos livres autant de billets de loterie, ils n'ont réellement pas plus de valeur. La postérité, en oubliant les uns et réprimant les autres, déclarera les billets gagnants. Jusque-là, chacun de nous ayant écrit de son mieux ce qui lui semble vrai, n'a guère de raison de se moquer de son voisin, à moins que la satire ne soit plaisante, auquel cas il a toujours raison, surtout s'il écrit comme M. Courrier à Adelphoria. Après ce préambule, je vais entrer courageusement dans l'examen de faits qui, j'en suis convaincu, ont rarement été observés à Paris. Mais enfin, à Paris, ville supérieure à toutes les autres, sans doute, l'on ne voit pas des orangers en pleine terre comme à Sorrento. Et c'est à Sorrento, la patrie du Tasse, sur le golfe de Naples, dans une position amicale sur la mer, plus pittoresque encore que celle de Naples elle-même, mais où on ne lit pas le miroir, que Lisio Visconti a observé et noté les faits suivants. Lorsqu'on doit voir le soir la femme qu'on aime, l'attente d'un si grand bonheur rend insupportable tous les moments qui s'en séparent. Une fièvre dévorante fait prendre et quitter 20 occupations. L'on regarde sa montre à chaque instant et l'on est ravi quand on voit qu'on a pu faire passer 10 minutes sans la regarder. L'heure tant désirée sonne enfin. Et quand on est à sa porte, prêt à frapper, l'on serait aisé de ne pas la trouver. Ce n'est que par réflexion qu'on s'en affligerait. En un mot, l'attente de la voir produit un effet désagréable. Voilà de ces choses qui font dire aux jeunes gens que l'amour déraisonne. C'est que l'imagination, retirée violemment de rêveries délicieuses, où chaque pas produit le bonheur, est ramené à la sévère réalité. L'âme tendre sait bien que dans le combat qui va commencer aussitôt que vous la verrez, la moindre négligence, le moindre manque d'attention ou de découvrage sera puni par une défaite empoisonnant pour longtemps les rêveries de l'imagination et hors de l'intérêt de la passion si l'on cherchait à s'y réfugier, humiliante pour l'amour-propre. On se dit « Oh, j'ai manqué d'esprit, j'ai manqué de courage. » Mais l'on a du courage envers ce qu'on aime qu'en l'aimant moins. Ce reste d'attention que l'on arrache avec tant de peine aux rêveries de la cristallisation fait que, dans les premiers discours à la femme qu'on aime, il échappe une foule de choses qui n'ont pas de sens ou qui ont un sens contraire à ce qu'on sent. Ou, ce qui est plus poignant encore, on exagère ses propres sentiments et ils deviennent ridicules à ses yeux. Et comme on sent vaguement qu'on ne fait pas assez d'attention à ce qu'on dit, un mouvement machinal fait soigner et charger la déclaration. Cependant, on ne peut pas se taire à cause de l'embarras du silence, durant lequel on pourrait encore moins songer à elle. On dit donc, d'un air senti, une foule de choses qu'on ne sent pas, et qu'on serait bien embarrassé de répéter. L'on s'obstine à se refuser à sa présence, pour être encore plus à elle. Dans les premiers moments que je connus l'amour, cette bizarrerie que je sentais en moi me faisait croire que je n'aimais pas. Je comprends la lâcheté et comment les conscrits se tirent de la peur en se jetant à corps perdu au milieu du feu. Le nombre des sottises que j'ai dites depuis 2 ans pour ne pas me taire me met au désespoir quand j'y songe. Voilà qui devrait bien marquer aux yeux des femmes la différence de l'amour-passion et de la galanterie, de l'âme tendre et de l'âme prosaïque. Dans ces moments décisifs, l'une gagne autant que l'autre perd. L'âme prosaïque reçoit justement le degré de chaleur qui lui manque habituellement, tandis que la pauvre âme tendre devient folle par excès de sentiments et qui plus est, a la prétention de cacher sa folie. Toute occupée à gouverner ses propres transports, elle est bien loin du sang-froid qu'il faut pour prendre ses avantages, et elle sort brouillée d'une visite où l'âme prosaïque eût fait un grand pas. Dès qu'il s'agit des intérêts trop vifs de sa passion, une âme tendre et fière ne peut pas être éloquente auprès de ce qu'elle aime. Ne pas réussir lui fait trop de mal. L'âme vulgaire, au contraire, calcule juste les chances de succès, ne s'arrête pas après sentir la douleur de la défaite. Et, fière de ce qui la rend vulgaire, elle se moque de l'âme tendre, qui, avec tout l'esprit possible, n'a jamais l'aisance nécessaire pour dire les choses les plus simples du succès le plus assuré. L'âme tendre, bien loin de pouvoir rien arracher par force, doit se résigner à ne rien obtenir que de la charité de ce qu'elle aime. Si la femme qu'on aime est vraiment sensible, l'on a toujours lieu de se repentir d'avoir voulu se faire violence pour lui parler d'amour. On a l'air honteux, on a l'air glacé, on aurait l'air menteur si la passion ne se trahissait pas à d'autres signes certains. Exprimer ce qu'on sent si vivement et si en détail à tous les instants de la vie est une corvée qu'on s'impose parce qu'on a lu des romans. Car si on était naturel, on n'entreprendrait jamais une chose si pénible. Au lieu de vouloir parler de ce qu'on sentait il y a un quart d'heure et de chercher à faire un tableau général et intéressant, on exprimerait avec simplicité le détail de ce qu'on sent dans le moment. Mais non, on se fait d'une violence extrême pour réussir moins bien. Et comme l'évidence de la sensation actuelle manque à ce qu'on dit, et que la mémoire n'est pas libre, on trouve convenable dans le moment et l'on dit des choses du ridicule le plus humiliant. Et quand enfin, après 1 heure de trouble, cet effort extrêmement pénible est fait de se retirer des jardins enchantés de l'imagination pour jouir tout simplement de la présence de ce qu'on aime, il se trouve souvent qu'il faut s'en séparer. Tout ceci paraît une extravagance. J'ai vu mieux encore. C'était un de mes amis qu'une femme qu'il aimait à l'idolâtrie, se prétendant offensée de je ne sais quel manque de délicatesse qu'on n'a jamais voulu me confier, avait condamné tout à coup à ne pas le voir que 2 fois par mois. Ses visites, si rares et si désirées, étaient un accès de folie, et il fallait toute la force de caractère de Salviati pour qu'elle ne me parût pas au dehors. Dès l'abord, l'idée de la fin de la visite est trop présente pour qu'on puisse trouver du plaisir. L'on parle beaucoup sans s'écouter. Souvent, on dit le contraire de ce qu'on pense. On s'embarque dans des raisonnements qu'on est obligé de couper court à cause de leur ridicule, si l'on en vient à se réveiller et à s'écouter. L'effort qu'on se fait est si violent qu'on a l'air froid. L'amour se cache par son excès. Loin d'elle, l'imagination était bercée par les plus charmants dialogues. L'on trouvait les transports les plus tendres, les plus touchants. On se croit ainsi pendant 10 ou 12 jours l'audace de lui parler. Mais l'avant-veille de celui qui devait être heureux, la fièvre commence et redouble à mesure qu'on approche de l'instant terrible. Au moment d'entrer dans son salon, l'on est réduit, pour ne pas dire ou faire des sottises incroyables, à se cramponner à la résolution de garder le silence et de la regarder pour pouvoir au moins se souvenir de sa figure. À peine en sa présence, il survient comme une sorte d'ivresse dans les yeux. On se sent porté comme un maniaque à faire des actions étranges. On a le sentiment d'avoir 2 âmes, l'une pour faire et l'autre pour blâmer ce qu'on fait. On sent confusément que l'attention forcée donnée à la sottise rafraîchirait le sang un moment en faisant perdre de vue la fin de la visite et le malheur de la quitter pour 15 jours. S'il se trouve là, quelque ennuyeux qui compte une histoire plate, dans son inexplicable folie, le pauvre amant, comme s'il était curieux de perdre des moments si rares, y devient toute attention. Cette heure, qu'il se promettait si délicieuse, passe comme un trait brûlant. Mais cependant, il sent, avec une indicible amertume, toutes les petites circonstances qui lui montrent combien il est devenu étranger à ce qu'il aime. Il se retrouve au milieu d'indifférents qui font visite, et il se voit le seul qui ignore tous les petits détails de sa vie de ses jours passés. Enfin, il sort. Et en lui disant froidement adieu, il a l'affreux sentiment d'être à 15 jours de la revoir. Nul doute qu'il souffrirait moins à ne jamais voir ce qu'il aime. C'est dans le genre, mais bien plus noir, du duc de Policastro, qui tous les 6 mois faisait 100 lieues pour voir un quart d'heure à Lesseche, une maîtresse adorée et gardée par un jaloux. On voit bien ici la volonté sans influence sur l'amour. Outré contre sa maîtresse et contre soi-même, comme l'on se précipiterait dans l'indifférence avec fureur. Le seul bien de cette visite est de renouveler le trésor de la cristallisation. La vie pour Salviati était divisée en périodes de 15 jours, qui prenaient la couleur de la soirée où il lui avait été permis de voir Madame X. Par exemple, il fut ravi de bonne heure le 21 mai et le 2 juin. Il ne rentrait pas chez lui, de peur de céder à la tentation de brûler la cervelle. J'ai vu ce soir-là que les romanciers ont très mal peint le moment du suicide. Je suis altéré, me disait Salviati d'un air simple. J'ai besoin de prendre ce verre d'eau. Je ne combattis point sa résolution. Je lui fis mes adieux et il se mit à pleurer. D'après le trouble qui accompagne les discours des amants, il ne serait pas sage de tirer des conséquences trop pressées d'un détail isolé de la conversation. Ils n'accusent juste leurs sentiments que dans les mots imprévus. Alors, c'est le cri du cœur. Du reste, c'est de la physionomie de l'ensemble des choses dites que l'on peut tirer des inductions. Il faut se rappeler qu'assez souvent, un être très ému n'a pas le temps d'apercevoir l'émotion de la personne qui cause la sienne. Chapitre 25. La présentation. À la finesse, à la sûreté de jugement avec lesquelles je vois les femmes saisir certains détails, je suis plein d'admiration. Un instant après, je les vois porter au ciel un nigaud, se laisser émouvoir jusqu'aux larmes par une fadeur, peser gravement comme trait de caractère une plate affectation. Je ne puis concevoir tant de niaiseries. Il faut qu'il y ait là quelque loi générale que j'ignore. attentives à un mérite d'un homme et entraînées par un détail, elles le sentent vivement et n'ont plus Dieu pour le reste. Tout le fluide nerveux est employé à jouir de cette qualité. Il n'en reste plus pour voir les autres. J'ai vu les hommes les plus remarquables être présentés à des femmes de beaucoup d'esprit. C'était toujours un grain de prévention qui décidait de l'effet de la première vue. Si l'on veut me permettre un détail familier, je compterai que l'aimable colonel L.B. allait être présenté à Madame Struve de Königsberg. C'est une femme du premier ordre. Nous nous disions « Fera colpo, fera-t-il effet ?» Il s'engage un pari. Je m'approche de Madame de Struve et lui conte que le colonel porte 2 jours de suite ses cravates. Le second jour, il fait la lessive du Gascon. Elle pourra remarquer sur sa cravate des plis verticaux. Rien de plus évidemment faux. Comme j'achevais, on annonce cet homme charmant. Le plus petit fat de Paris eût produit plus d'effet. Remarquez que Madame de Struve aimait. C'est une femme honnête et il ne pouvait être question de galanterie entre eux. Jamais 2 caractères n'ont été plus faits l'un pour l'autre. On blâmait Madame de Struve d'être romanesque. Il n'y avait que la vertu, poussée jusqu'au romanesque, qui put toucher L.B. Elle l'a fait fusiller très jeune. Il a été donné aux femmes de sentir d'une manière admirable les nuances d'affection, les variations les plus insensibles du cœur humain, les mouvements les plus légers des amours propres. Elles ont à cet égard un organe qui nous manque. Voyez-les soigner un blessé. Mais peut-être aussi ne voit-elle pas ce qui est esprit et combinaison morale. J'ai vu les femmes les plus distinguées se charmer d'un homme d'esprit qui n'était pas moi, et tout d'un temps, et presque du même mot, admirer les plus grands sots. Je me trouvais attrapé comme un connaisseur qui voit prendre les plus beaux diamants pour des strass, et préférer les strass s'ils sont plus gros. J'en concluais qu'il faut tout oser auprès des femmes. Là où le général Lassalle a échoué, un capitaine à moustache et à jurement réussit. Il y a sûrement dans le mérite des hommes tout un côté qui leur échappe. Pour moi, je reviens toujours aux lois physiques. Le fluide nerveux chez les hommes suce par la cervelle et chez les femmes par le cœur. C'est pour cela qu'elles sont plus sensibles. Un grand travail obligé dans le métier que nous avons fait toute la vie console, et pour elles rien ne peut les consoler que la distraction. Appiani, qui ne croit à la vertu qu'à la dernière extrémité, et avec lequel j'allais ce soir à la chasse des idées, en lui exposant celle de ce chapitre, me répond « La force d'âme qu'Éponine employait avec un dévouement héroïque à faire vivre son mari dans la caverne sous terre et à l'empêcher de tomber dans le désespoir. S'ils eussent vécu tranquillement à Rome, elle l'eût employé à lui cacher un amant. Il faut un aliment aux âmes fortes. » Chapitre 26 de la pudeur. Une femme de Madagascar laisse voir, sans y songer, ce qu'on cache le plus ici, mais mourrait de honte plutôt que de montrer son bras. Il est clair que les 3/4 de la pudeur sont une chose apprise. C'est peut-être la seule loi, fille de la civilisation, qui ne produise que du bonheur. On a observé que les oiseaux de proie se cachent pour boire. C'est qu'obligé de plonger la tête dans l'eau, ils sont sans défense en ce moment. Après avoir constaté ce qui se passe à Otaïti, je ne vois pas d'autre base naturelle à la pudeur. L'amour est le miracle de la civilisation. On ne trouve qu'un amour physique et des plus grossiers chez les peuples sauvages ou trop barbares. et la pudeur prête à l'amour le secours de l'imagination, c'est lui donner la vie. La pudeur est enseignée le très bonheur aux petites filles par leur mère, et avec une extrême jalousie, on dirait comme par esprit de corps. C'est que les femmes prennent soin d'avance du bonheur de l'amant qu'elles auront. Pour une femme timide et tendre, rien ne doit être au-dessus du supplice de s'être permis, en présence d'un homme, quelque chose dont elle croit devoir rougir. Je suis convaincu qu'une femme un peu fière préférerait 1000 morts. Une légère liberté prise du côté tendre par l'homme qu'on aime donne un mouvement de plaisir vif. S'il a l'air de la blâmer ou seulement de ne pas en jouir avec transport, elle doit laisser dans l'âme un doute affreux. Pour une femme au-dessus du vulgaire, il y a donc tout à gagner à avoir des manières fort réservées. Le jeu n'est pas égal. On hasarde contre un petit plaisir ou contre l'avantage de paraître un peu plus aimable, le danger d'un remords cuisant et d'un sentiment de honte qui doit rendre même l'amant moins cher. Une soirée passée gaiement, à l'étourdi et sans songer à rien, est chèrement payée à ce prix. La vue d'un amant avec lequel on craint d'avoir eu ce genre de tort doit devenir odieuse pour plusieurs jours. Peut-on s'étonner de la force d'une habitude à laquelle les plus légères infractions sont punies par la honte la plus atroce? Quant à l'utilité de la pudeur, elle est la mère de l'amour. On ne saurait plus rien lui contester. Pour le mécanisme du sentiment, rien n'est si simple. L'homme s'occupe à avoir honte au lieu de s'occuper à désirer. On s'interdit les désirs et les désirs conduisent aux actions. Il est évident que toute femme tendre et fière, et ces deux choses étant cause et effet, vont difficilement l'une sans l'autre, doit contracter des habitudes de froideur que les gens qu'elle déconcerte appellent de la pruderie. L'accusation est d'autant plus spécieuse qu'il est très difficile de garder un juste milieu. Pour peu qu'une femme ait peu d'esprit et beaucoup d'orgueil, elle doit bientôt en venir à croire qu'en fait de pudeur, on en saurait trop faire. C'est ainsi qu'une Anglaise se croit insultée si l'on prononce devant elle le nom de certains vêtements. Une Anglaise se garderait bien, le soir à la campagne, de se laisser voir quittant le salon avec son mari. Et ce qui est plus grave, elle croit blesser la pudeur si elle montre quelque enjouement devant tout autre que ce mari. C'est peut-être à cause d'une attention si délicate que les Anglais et gens d'esprit laissent voir tant d'ennuis de leur bonheur domestique. À eux la faute. Pourquoi tant d'orgueil? En revanche, passant tout à coup de Plymouth à Cadiz et à Séville, je trouvais qu'en Espagne, la chaleur du climat et des passions faisait un peu trop oublier une retenue nécessaire. Je remarquais des caresses fort tendres qu'on se permettait en public et qui, loin de me sembler touchantes, m'inspiraient un sentiment tout opposé. Rien n'est plus pénible. Il faut s'attendre à trouver incalculable la force des habitudes inspirées aux femmes sous prétexte de pudeur. Une femme vulgaire, en outrant la pudeur, croit se faire l'égale d'une femme distinguée. L'empire de la pudeur est tel qu'une femme tendre arrive à se trahir envers son amant, plutôt par des faits que par des paroles. La femme la plus jolie, la plus riche et la plus facile de Bologne vient de me conter qu'hier soir, un fat français, qui est ici et qui donne une drôle d'idée de sa nation, s'est avisé de se cacher sous son lit. Il voulait apparemment ne pas perdre un nombre infini de déclarations ridicules dont il la poursuit depuis un mois. Mais ce grand homme a manqué de présence d'esprit. Il a bien attendu que madame M. eût congédié sa femme de chambre et se fût mise au lit, mais il n'a pas eu la patience de donner aux gens le temps de s'endormir. Elle s'est jetée à la sonnette et l'a fait chasser honteusement au milieu des huées et des coups de 5 ou 6 laquais. « Mais et s'il eût attendu 2 heures, lui disais-je. Bon, j'aurais été bien malheureuse. Qui pourra douter, m'eût-il dit, que je ne sois ici par vos ordres ?» Au sortir de cette jolie femme, je suis allé chez la femme la plus digne d'être aimée que je connaisse. Son extrême délicatesse est, s'il se peut, au-dessus de sa beauté touchante. Je la trouve seule et lui conte l'histoire de Madame M. Nous raisonnons là-dessus. « Écoutez, me dit-elle, si l'homme qui se permet cette action était aimable auparavant aux yeux de cette femme, on lui pardonnera, et par la suite, on l'aimera. J'avoue que je suis resté confondu de cette lumière imprévue jetée sur les profondeurs du cœur humain. Alors je lui ai répondu au bout d'un silence, « Mais quand on aime, a-t-on le courage de se porter aux dernières violences ?» Il y aurait bien moins de vagues dans ce chapitre si une femme eût écrit « Tout ce qui tient à la fierté de l'orgueil féminin, à l'habitude de la pudeur et de ses excès, à certaines délicatesses, la plupart dépendant uniquement d'associations de sensations qui ne peuvent pas exister chez les hommes et souvent délicatesses non fondées dans la nature. Toutes ces choses, dis-je, ne pourraient se trouver ici qu'autant qu'on se serait permis d'écrire sur oui-dire. Une femme me disait, dans un moment de franchise philosophique, quelque chose qui revient à ceci. Si je sacrifiais ma même liberté, l'homme que j'arriverais à préférer et apprécierait davantage mes sentiments en voyant combien j'ai toujours été avare, même des préférences les plus légères. C'est en faveur de cet amant qu'elle ne rencontrera peut-être jamais que telle femme aimable montre de la froideur à l'homme qui lui parle en ce moment. Voilà la première exagération de la pudeur. Celle-ci est respectable, la seconde vient de l'orgueil des femmes. La troisième source d'exagération, c'est l'orgueil des maris. Il me semble que cette possibilité d'amour se présente souvent aux rêveries de la femme, même la plus vertueuse, et elles ont raison. Ne pas aimer quand on a reçu du ciel une âme faite pour l'amour, c'est se priver soi et autrui d'un grand bonheur. C'est comme un oranger qui ne fleurirait pas de peur de faire un péché. Et remarquez qu'une âme faite pour l'amour ne peut goûter avec transport aucun autre bonheur. Elle trouve dès la seconde fois, dans les prétendus plaisirs du monde, un vide insupportable. Elle croit souvent aimer les beaux-arts et les aspects sublimes de la nature, mais ils ne font que lui promettre, lui exagérer l'amour, s'il est possible. Et elle s'aperçoit bientôt qu'il lui parle d'un bonheur dont elle a résolu de se priver. La seule chose que je vois à blâmer dans la pudeur, c'est de conduire à l'habitude de mentir. C'est le seul avantage que les femmes faciles aient sur les femmes tendres. Une femme facile vous dit « Mon cher ami, dès que vous me plairez, je vous le dirai, et je serai plus aise que vous, car j'ai beaucoup d'estime pour vous. » Vive satisfaction de Constance, s'écriant après la victoire de son amant, « Oh, que je suis heureuse de n'être donnée à personne depuis 8 ans que je suis brouillée avec mon mari. » Quelque ridicule que je trouve ce raisonnement, cette joie me semble pleine de fraîcheur. Oh, il faut absolument que je conte ici de quelle nature étaient les regrets d'une dame de Séville abandonnée par son amant. J'ai besoin qu'on se rappelle qu'en amour tout est signe et surtout qu'on veut bien accorder un peu d'indulgence à mon style. mes yeux d'homme croient distinguer 9 particularités dans la pudeur. Premièrement, l'on joue beaucoup contre peu. Donc, être extrêmement réservé, donc souvent affectation. L'on ne rit pas, par exemple, des choses qui amusent le plus. Donc, il faut beaucoup d'esprit pour avoir juste ce qu'il faut de pudeur. C'est pour cela que beaucoup de femmes n'en ont pas assez en petit comité ou, pour parler plus juste, n'exigent pas que les contes qu'on leur fait soient assez gazés et ne perdent leur voile qu'à mesure du degré d'ivresse et de folie. Serait-ce par un effet de la pudeur et du mortel ennui qu'elle doit imposer à plusieurs femmes que la plupart d'entre elles n'estiment rien tant dans un homme que l'effronterie, ou prennent-elles l'effronterie pour du caractère? Deuxième loi, mon amant m'en estimera davantage. Troisièmement, la force de l'habitude l'emporte même dans les instants les plus passionnés. Quatrièmement, la pudeur donne des plaisirs bien flatteurs à l'amant. Elle lui fait sentir quelle loi l'on transgresse pour lui. Cinquièmement, et aux femmes, des plaisirs plus enivrants. Comme ils font vaincre une habitude puissante, ils jettent plus de troubles dans l'âme. Le comte de Valmont se trouve à minuit dans la chambre à coucher d'une jolie femme. Cela lui arrive toutes les semaines, et à elle peut-être une fois tous les 2 ans. La rareté et la pudeur doivent donc préparer aux femmes des plaisirs infiniment plus vifs. Sixièmement, l'inconvénient de la pudeur, c'est qu'elle jette sans cesse dans le mensonge. Septièmement, l'excès de la pudeur et sa sévérité découragent d'aimer les âmes tendres et timides, justement celles qui font fait pour donner et sentir les délices de l'amour. Huitièmement, chez les femmes tendres qui n'ont pas eu plusieurs amants, la pudeur est un obstacle à l'aisance des manières. C'est ce qui les expose à se laisser un peu mener par leurs amis qui n'ont pas le même manque à se reprocher. Elles donnent de l'attention à chaque cas particulier, au lieu de s'en remettre aveuglément à l'habitude. Leur pudeur délicate communique à leurs actions quelque chose de contraint. À force de naturel, elles se donnent l'apparence de manquer de naturel, mais cette gaucherie tient à la grâce céleste. Si, quelquefois, leur familiarité ressemble à de la tendresse, c'est que ces âmes angéliques sont coquettes sans le savoir. Par paresse d'interrompre leur rêverie, pour s'éviter la peine de parler et de trouver quelque chose d'agréable et de poli, et qui ne soit que poli, à dire à un ami, elles se mettent à s'appuyer tendrement sur son bras. Neuvièmement, ce qui fait que les femmes, quand elles se font auteurs, atteignent bien rarement au sublime, ce qui donne de la grâce à leurs moindres billets, c'est que jamais elles n'osent être franches qu'à demi. Être franche serait pour elles comme pour sortir sans fichu. Rien de plus fréquent pour un homme que d'écrire absolument sous la dictée de son imagination et sans savoir où il va. Résumé. L'erreur commune est d'en agir avec les femmes comme avec des espèces d'hommes plus généreux, plus mobiles et surtout avec lesquels il n'y a pas de rivalité possible. L'on oublie trop facilement qu'il y a 2 lois nouvelles et singulières qui tyrannisent ces êtres si mobiles en concurrence avec tous les penchants ordinaires de la nature humaine. Je veux dire l'orgueil féminin et la pudeur et les habitudes souvent indéchiffrables, filles de la pudeur. Chapitre 27 Des regards. C'est la grande arme de la coquetterie vertueuse. On peut tout dire avec un regard, et cependant on peut toujours nier un regard, car il ne peut pas être répété textuellement. Ceci me rappelle le conte G, le Mirabeau de Rome. L'aimable petit gouvernement de ce pays-là lui a donné une manière originale de faire des récits par des mots entrecoupés qui disent tout et rien. Il fait tout entendre, mais libre à qui que ce soit de répéter textuellement toutes ses paroles, impossible de le compromettre. Le cardinal Ante lui disait qu'il avait volé ce talent aux femmes, je dis même les plus honnêtes. Cette friponnerie était de représailles cruelles, mais juste de la tyrannie des hommes. Chapitre 28. De l'orgueil féminin. Les femmes entendent parler toute leur vie par les hommes d'objets prétendus importants, de gros gains d'argent, de succès à la guerre, de gens tués en duel, de vengeances atroces ou admirables, etc. Celles d'entre elles qui ont l'âme fière sentent que, ne pouvant atteindre ces objets, elles sont hors d'état de déployer un orgueil remarquable par l'importance des choses sur lesquelles ils s'appuient. Elles sentent palpiter dans leur sein un cœur qui, par la force et la fierté de ses mouvements, est supérieur à tout ce qui les entoure, et cependant elles voient les derniers des hommes s'estimer plus qu'elles. Elles s'aperçoivent qu'elles ne sauraient montrer d'orgueil que pour de petites choses, ou du moins que pour des choses qui n'ont d'importance que par le sentiment et dont un tiers ne peut être jugé. Tourmentées par ce contraste désolant entre la bassesse de leur fortune et la fierté de leur âme, elles entreprennent de rendre leur orgueil respectable par la vivacité de ses transports ou par l'implacable ténacité avec laquelle elles maintiennent ses arrêts. Avant l'intimité, ces femmes-là se figurent, en voyant leur amant, qu'il a entrepris un siège contre elles. Leur imagination est employée à s'irriter de ces démarches qui, après tout, ne peuvent pas faire autrement que de marquer de la bourre puisqu'il aime. Au lieu de jouir des sentiments de l'homme qu'elle préfère, elle se pique de vanité à son égard. Et enfin, avec l'âme la plus tendre, lorsque sa sensibilité n'est pas fixée sur un seul objet, dès qu'elles aiment, comme une coquette vulgaire, elles n'ont plus que de la vanité. Une femme à caractère généreux sacrifiera 1000 fois sa vie pour son amant et se brouillera à jamais avec lui pour une querelle d'orgueil à propos d'une porte ouverte ou fermée. C'est là leur point d'honneur. Napoléon s'est bien perdu pour ne pas céder un village. J'ai vu une querelle de cette espèce durer plus d'un an. Une femme, très distinguée, sacrifiait tout son bonheur plutôt que de mettre son amant dans le cas de pouvoir former le moindre doute sur la magnanimité de son orgueil. Leur accommodement fut l'effet du hasard. Et chez mon ami, d'un moment de faiblesse, qu'elle ne put vaincre en rencontrant son amant, qu'elle croyait à 40 lieues de là, et le trouvant dans un lieu où certainement il ne s'attendait pas à la voir. Elle ne put cacher son premier transport de bonheur. L'amant s'attendrit plus qu'elle, ils tombèrent presque aux genoux l'un de l'autre, et jamais je n'ai vu couler tant de larmes. C'était la vue imprévue du bonheur. Les larmes sont l'extrême sourire. Le duc d'Argyle donna un bel exemple de présence d'esprit en engageant par un combat d'orgueil féminin dans l'entrevue qu'il eut à Richemont avec la reine Caroline. Plus il y a d'élévation dans le caractère d'une femme, plus terribles sont ses orages. Serait-ce que plus d'une femme jouit avec transport dans le courant de la vie des qualités distinguées de son amant? Plus dans ces instants cruels où la sympathie semble renversée, elle cherche à se venger de ce qu'elle lui voit habituellement de supériorité sur les autres hommes. Elle craint d'être confondue avec eux. Il y a bien du temps que je n'ai lu l'ennuyeuse Clarisse, Il me semble pourtant que c'est par orgueil féminin qu'elle se laisse mourir, n'accepte pas la main de Lovelace. La faute de Lovelace était grande. Mais puisqu'elle l'aimait un peu, elle aurait pu trouver dans son cœur le pardon d'un crime dont l'amour était cause. Monime, au contraire, me semble un touchant modèle de délicatesse féminine. Quelle fronde ne rougit pas de plaisir en entendant dire par une actrice digne de ce rôle. Et ce fatal amour dont j'avais triomphé, vos détours l'ont surpris et m'en ont convaincu. Je voulais confesser, je le dois soutenir. En vain vous en pourriez perdre le souvenir. Et cet aveu honteux où vous m'avez forcé demeurera toujours présent à ma pensée. Toujours je vous croirai incertain de ma foi, et le tombeau, Seigneur, est moins triste pour moi que le lit d'un époux qui m'a fait cet outrage, qui s'est acquis sur moi ce cruel avantage, et qui, me préparant un éternel ennui, m'a fait rougir d'un feu qui n'était pas pour lui. Racine. Je m'imagine que les siècles futurs diront « Voilà à quoi la monarchie était bonne, à produire de ces sortes de caractères, et leurs peintures par les grands artistes. Cependant, même dans les républiques du Moyen-Âge, je trouve un admirable exemple de cette délicatesse qui semble détruire mon système de l'influence des gouvernements sur les passions et que je rapporterai avec candeur. Il s'agit de vers touchants de Dante. « Nei quando tu serai tornato al mondo. » Hélas, quand tu seras de retour au monde des vivants, daigne aussi m'accorder un souvenir. Je suis la Pia, sienne et me donna la vie. Je trouvais la mort dans nos marèmes. Celui qui, en m'épouvant, m'avait donné son anneau, c'est mon histoire. La femme qui parle avec tant de retenue avait eu en secret le sort de Desdémone et pouvait par un mot faire connaître le crime de son mari aux amis qu'elle avait laissés sur la terre. Nello della Pietra obtint la main de Madonna Pia, l'unique héritière des Tolomei, la famille la plus riche et la plus noble de Sienne. Sa beauté, qui faisait l'admiration de la Toscane, fit naître dans le cœur de son époux une jalousie qui, envenimée par de faux rapports et des soupçons sans cesse renaissants, le conduisit à un affreux projet. Il est difficile de décider aujourd'hui si sa femme fut tout à fait innocente, mais le Dante nous la représente comme telle. Son mari la conduisit dans la marème de Voltaire, célèbre alors comme aujourd'hui par les effets de l'aria cattiva. Jamais il ne voulut dire à sa malheureuse femme la raison de son exil en un lieu si dangereux. Son orgueil ne daigna prononcer ni plainte ni accusation. Il vivait seul avec elle dans une tour abandonnée dont je suis allé visiter les ruines sur le bord de la mer. Là, il ne rompit jamais son dédaigneux silence. Jamais il ne répondit aux questions de sa jeune épouse. Jamais il n'écouta ses prières. Il attendit froidement auprès d'elle que l'air pestilentiel eût produit son effet. Les vapeurs de ces marais ne tardèrent pas à flétrir ses traits, les plus beaux, dit-on, qui dans ce siècle eussent paru sur la terre. En peu de mois, elle mourut. Quelques chroniqueurs de ces temps éloignés rapportent que Nello employait le poignard pour hâter sa fin. Elle mourut dans les marèmes de quelque manière horrible. Mais le genre de sa mort fut un mystère, même pour les contemporains. Nello della Pietra survécut pour passer le reste de ses jours dans un silence qu'il ne rompit jamais. Rien de plus noble et de plus délicat que la manière dont la jeune Pia adresse la parole au Dante. Elle désire être rappelée à la mémoire des amis que si jeune elle a laissé sur la terre. Toutefois, en se nommant et désignant son mari, elle ne veut pas se permettre la plus petite plainte d'une cruauté inouïe, mais désormais irréparable, et seulement indique qu'il sait l'histoire de sa mort. C'est de constance dans la vengeance de l'orgueil ne se voit guère, je crois, que dans les pays du Midi. En Piémont, je me suis trouvé l'involontaire témoin d'un fait à peu près semblable, mais alors j'ignorais les détails. Je fus envoyé avec 25 dragons dans les bois le long de la Cesia pour empêcher la contrebande. En arrivant le soir dans ce lieu sauvage et désert, j'aperçus entre les arbres les ruines d'un vieux château. J'y allais. À mon grand étonnement, il était habité. J'y trouvai un noble du pays à figure sinistre, un homme qui avait 6 pieds de haut et 40 ans. Il me donna 2 chambres en rechignant. J'y faisais de la musique avec mon maréchal des logis. Après plusieurs jours, nous découvrîmes que notre homme gardait une femme que nous appelions Camille en riant. Mais nous étions loin de soupçonner l'affreuse vérité. Elle mourut au bout de 6 semaines. J'eus la triste curiosité de la voir dans son cercueil. Je payai un moine qui la gardait, et vers minuit, sous prétexte de jeter de l'eau bénite, il m'introduisit dans la chapelle. J'y trouvai une de ces figures superbes qui sont belles même dans le sein de la mort. Elle avait un grand nez aquilin dont je n'oublierai jamais le contour noble et tendre. Je quittai ce lieu funeste. 5 ans après, un détachement de mon régiment, accompagnant l'empereur à son couronnement, comme mon roi d'Italie, je me fis conter toute l'histoire. J'appris que le mari jaloux, le comte 3 étoiles, avait trouvé un matin, accroché au lit de sa femme, une montre anglaise appartenant à un jeune homme de la petite ville qu'ils habitaient. Ce jour même, il la conduisit dans le château ruiné, au milieu des bois de la Cesia. Comme Nello della Pietra, il ne prononça jamais une seule parole. Si elle lui faisait quelques prières, il lui présentait froidement et en silence la montre anglaise qu'il avait toujours sur lui. Il passa ainsi près de 3 ans seul avec elle. Elle mourut enfin de désespoir dans la fleur de l'âge. Son mari chercha à donner un coup de couteau au maître de la montre, le manqua, passa à Gênes, s'embarqua et on n'a plus eu de ses nouvelles. Ses biens ont été divisés. Si auprès des femmes à orgueil féminin l'on prend les injures avec grâce, ce qui est facile à cause de l'habitude de la vie militaire, on ennuie ces âmes fières. Elles vous prennent pour un lâche et arrivent bien vite à l'outrage. Ces caractères altiers cèdent avec plaisir aux hommes qu'elle voit intolérant avec les autres hommes. C'est, je crois, le seul parti à prendre, et il faut souvent avoir une querelle avec son voisin pour l'éviter avec sa maîtresse. Miss Cornell, célèbre actrice de Londres, voit un jour entrer chez elle, à l'improviste, le riche colonel qui lui était utile. Elle se trouvait avec un petit amant qui ne lui était qu'agréable. « Monsieur Attel, dit-elle tout émue au colonel, est venu pour voir le poney que je veux vendre. »« Je suis ici pour toute autre chose, » reprit fièrement ce petit amant qui commençait à l'ennuyer, et que depuis cette réponse elle se mit à réaimer avec fureur. Ces femmes-là sympathisent avec l'orgueil de leur amant au lieu d'exercer à ses dépens leur disposition à la fierté. Le caractère du duc de Lauzun, celui de 1660. Si le premier jour, elles peuvent lui pardonner le manque de grâce, est séduisant pour ces femmes-là, et peut-être pour toutes les femmes distinguées. La grandeur plus élevée leur échappe. Elles prennent pour de la froideur le calme de l'œil qui voit tout et qui ne s'émeut point d'un détail. N'ai-je pas vu des femmes de la cour de Saint-Cloud soutenir que Napoléon avait un caractère sec et prosaïque? Le grand homme est comme l'aigle. Plus il s'élève, moins il est visible, et il est puni de sa grandeur par la solitude de l'âme. Et de l'orgueil féminin naît ce que les femmes appellent les manques de délicatesse. Je crois que cela ressemble assez à ce que les rois appellent lèse-majesté, crime d'autant plus dangereux qu'on y tombe sans s'en douter. L'amant le plus tendre peut être accusé de manquer de délicatesse s'il n'a pas beaucoup d'esprit, et, ce qui est plus triste, s'il ose se livrer au plus grand charme de l'amour, au bonheur d'être parfaitement naturel avec ce qu'on aime et de ne pas écouter ce qu'on lui dit. Voilà de ces choses dont un cœur bien né ne saurait avoir le soupçon, et qu'il faut avoir éprouvé pour y croire, car l'on est entraîné par l'habitude d'en agir avec justice et franchise avec ses amis hommes. Il faut se rappeler sans cesse qu'on a affaire à des êtres qui, quoiqu'à tort, peuvent se croire inférieurs en vigueur de caractère, ou pour mieux dire, peuvent penser qu'on les croit inférieurs. Le véritable orgueil d'une femme ne devrait-il pas se placer dans l'énergie du sentiment qu'elle inspire? On plaisantait une fille d'honneur de la reine épouse de François Ier sur la légèreté de son amant qui, disait-on, ne l'aimait guère. Peu de temps après, cet amant eut une maladie et reparut muet à la cour. Un jour, au bout de 2 ans, comme on s'étonnait qu'elle l'amât toujours, elle lui dit « Parlez !» Et il parla. Chapitre 29. Du courage des femmes. Je me souviens d'avoir rencontré la phrase suivante dans un livre d'histoire. Tous les hommes perdaient la tête, c'est le moment où les femmes prennent sur eux une incontestable supériorité. Leur courage a une réserve qui manque à celui de leur amant. Elles se piquent d'amour-propre à son égard et trouvent tant de plaisir à pouvoir, dans le feu du danger, le disputer de fermeté à l'homme qui les blesse souvent par la fierté de sa protection et de sa force, que l'énergie de cette jouissance les élève au-dessus de la crainte quelconque qui, dans ce moment, fait la faiblesse des hommes. Un homme aussi, s'il recevait un tel secours dans un tel moment, se montrerait supérieur à tout, car la peur n'est jamais dans le danger, elle est dans nous. Ce n'est pas que je prétende déprécier le courage des femmes. J'en ai vu dans l'occasion de supérieurs aux hommes les plus braves. Il faut seulement qu'elles aient un homme à aimer, comme elles ne se sentent plus que par lui. Le danger direct et personnel le plus atroce devient pour elle comme une rose à cueillir en sa présence. J'ai trouvé aussi, chez des femmes qui n'aimaient pas, l'imprévisibilité la plus froide, la plus étonnante, la plus exempte de nerfs. Il est vrai que je pensais qu'elles ne sont si braves que parce qu'elles ignorent l'ennui des blessures. Quant au courage moral, si supérieur à l'autre, la fermeté d'une femme qui résiste à son amour est seulement la chose la plus admirable qui puisse exister sur la terre. Toutes les autres marques possibles de courage sont des bagatelles auprès d'une chose si fort contre nature et si pénible. Peut-être trouve-t-elle des forces dans cette habitude des sacrifices que la pudeur fait contracter. Un malheur des femmes, c'est que les preuves de ce courage restent toujours secrètes et soient presque indivulgables. Un malheur plus grand, c'est qu'ils soient toujours employés contre leur bonheur. La princesse de Clèves devait ne rien dire à son mari et se donner à Monsieur de Nemours. Peut-être que les femmes sont principalement soutenues par l'orgueil de faire une belle défense et qu'elles s'imaginent que leur amant met de la vanité à les avoir. Il est petit et misérable. Un homme passionné qui se jette de gaieté de cœur dans tant de situations ridicules a bien le temps de songer à la vanité. C'est comme les moines qui croient attraper le diable et qui se paient par l'orgueil de leur cilice et de leur macération. Je crois que si Madame de Clèves fut arrivée à la vieillesse, à cette époque où l'on juge la vie et où les jouissances d'orgueil paraissent dans toute leur misère, elle se fût repentie. Elle aurait voulu avoir vécu comme Madame de Lafayette. Oh, je viens de relire 100 pages de cet essai. J'ai donné une idée bien pauvre du véritable amour, de l'amour qui occupe toute l'âme, la remplit d'images tantôt les plus heureuses, tantôt désespérantes, mais toujours sublime et la rend complètement insensible à tout le reste de ce qui existe. Je ne sais comment t'exprimer ce que je vois si bien. Je n'ai jamais senti plus péniblement le manque de talent. Comment rendre sensible la simplicité de gestes et de caractère, le profond sérieux, le regard peignant si juste et avec tant de candeur, la nuance du sentiment, et surtout, j'y reviens, cette inexprimable non-curance pour tout ce qui n'est pas la femme qu'on aime. Un non ou un oui dit par un homme qui aime à une onction que l'on ne trouve point ailleurs, que l'on ne trouvait point chez cet homme en d'autres temps. Ce matin, 3 août, j'ai passé à cheval sur les 9 heures devant le joli jardin anglais du marquis Zampieri, placé sur les dernières ondulations de ces collines couronnées de grands arbres contre lesquels Bologne est adossée et desquels on jouit d'une si belle vue de cette riche et verdoyante Lombardie, le plus beau pays du monde. Dans un bosquet de lauriers du jardin Zampieri, qui domine le chemin que je suivais et qui conduit à la cascade du Reno à Casalecchio, j'ai vu le comte Del Fante. Il rêvait profondément, et quoique nous ayons passé la soirée ensemble jusqu'à 2 heures après minuit, à peine m'a-t-il rendu mon salut. Je suis allé à la cascade, j'ai traversé le Reno, enfin 3 heures après au moins, en repassant sous le bosquet du jardin Zampieri, je l'ai vu encore. Il était précisément dans la même position, appuyé contre un grand pin qui s'élève au-dessus du bosquet de laurier. Je crains qu'on ne trouve ce détail trop simple et ne prouve en rien. Il est venu à moi, la larme à l'œil, me priant de ne pas faire un compte de son immobilité. J'ai été touché. Je lui ai proposé de rebrousser chemin et d'aller avec lui passer le reste de la journée à la campagne. Au bout de 2 heures, il m'a tout dit. C'est une belle âme. Mais que les pages que l'on vient de lire sont froides auprès de ce qu'il me disait. En second lieu, il se croit non aimé. Ce n'est pas mon avis. On ne peut rien lire sur sa belle figure de marbre de la comtesse Gigi, chez laquelle nous avons passé la soirée. Seulement, quelquefois, une rougeur subite et légère, qu'elle ne peut réprimer, vient trahir les émotions de cette âme, que l'orgueil féminin le plus exalté dispute aux émotions fortes. On voit son cou d'albâtre, et ce qu'on aperçoit de ses belles épaules, digne de Canova, rougir aussi. Elle trouve bien l'art de soustraire ses yeux noirs et sombres à l'observation des gens dont sa délicatesse de femme redoute la pénétration, mais j'ai vu cette nuit à certaines choses que disait Del Fante et qu'elle désapprouvait, une subite rougeur la couvrir tout entière. Cette âme hautaine le trouvait moins digne d'elle. Mais enfin, quand je me tromperai dans mes conjectures sur le bonheur de Del Fante, à la vanité près, je le crois plus heureux que moi, indifférent, qui cependant suis dans une position de bonheur fort bien en apparence et en réalité. Bologne, le 3 août 1818. Chapitre 30. Spectacle singulier et triste. Les femmes, avec leur orgueil féminin, se vengent des sots sur les gens d'esprit et des âmes prosaïques à argent et à coups de bâton sur les cœurs généreux. Il faut convenir que voilà un beau résultat. Les petites considérations de l'orgueil et des convenances du monde ont fait le malheur de quelques femmes, et par orgueil, leurs parents les ont placées dans une position abominable. Le destin leur avait réservé pour consolation bien supérieure à tout leur malheur le bonheur d'aimer et d'être aimées avec passion. Mais voilà qu'un beau jour, elles empruntent à leurs ennemis ce même orgueil insensé dont elles furent les premières victimes, et c'est pour tuer le seul bonheur qui leur reste, c'est pour faire leur propre malheur, et le malheur de qui les aime. Une amie qui a eu 10 intrigues connues, et non pas toujours les unes après les autres, leur persuade gravement que si elles aiment, elles seront déshonorées aux yeux du public. Et cependant, ce bon public, qui ne s'élève jamais qu'à des idées basses, leur donne généreusement un amant tous les ans, parce que, dit-il, c'est la règle. Ainsi l'âme est attristée par ce spectacle bizarre. Une femme tendre et souverainement délicate, un ange de pureté, sur la vie d'une catin sans délicatesse, fuit le seul et immense bonheur qui lui reste, pour paraître avec une robe d'une éclatante blancheur devant un gros butor de juges qu'on sait aveugle depuis 100 ans et qui crie à tue-tête. Elle est vêtue de noir.